Voici les démêlés de Robert Pilote.
C'est lundi, c'est Mathieu Gaudreau. Bonjour Mathieu.
Bonjour Robert, comment vas-tu?
Nous autres, on se peut plus. Tellement de choses dans l'actualité aujourd'hui.
Tu parles de plastique recyclé, parlant de recyclage, le Parti libéral du Québec va ressortir Pierre Giguère, c'est ça?
c'est pas fin ça?
Non, je sais que c'est pas fin, mais c'est juste une petite blaguette. Oui. Je pensais qu'il l'avait mis dans le bac à compost, mais non, finalement, ils vont s'en servir.
Incroyable quand même. Peut-être qu'il savait des affaires, qu'il sentait des affaires que nous autres, on ne sentait pas.
Mais c'est particulier quand même, cette annonce de non-retour de la part de Julie Boulet, qui avait quand même férocement disputé son comté, justement, auprès du premier ministre puis des officines du Parti libéral. Et là, tout d'un coup, pouf!
Ben, tu sais, on a fait un petit calcul tantôt, là, avec à 60 ans, elle va toucher sa retraite.
Oui.
OK? C'est au-dessus de 60% de son salaire. OK?
Oui.
Sa prime de séparation?
150 000 à peu près.
Ben, tu sais, je vais te dire, c'est aller comme député aujourd'hui, peut-être dans l'opposition, à te rouler les pouces, là, je pense qu'il est mieux d'aller faire d'autres choses.
Ouais, mais tu sais, la politique, Robert, c'est pas juste de diriger. Hein. La politique, c'est aussi d'être dans l'opposition pour s'opposer à l'occasion. Non, mais en même temps, je la comprends. Là, 60 ans, elle a entièrement le droit. Je pense que ça fait au-dessus de 15 ans qu'elle est députée.
Ben oui.
17 ans. Écoute, c'est normal qu'elle veuille passer à d'autres choses. C'est juste le timing, le switch particulier d'avoir demandé au premier ministre de choisir entre elle et Pierre Giguère et qu'elle s'est férocement battue pour y retourner. Et là, tout d'un coup, elle s'en va. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on n'est pas au courant. Elle n'a peut-être pas envie de se battre avec son frère publiquement. Et elle n'a peut-être pas envie non plus d'affronter Mme Lebel.
Peut-être. Puis peut-être. L'usure du pouvoir. Et là, vu quitter, il y a pas mal de ses collègues au Conseil des ministres qui s'en vont. Tout à l'heure, Louis Lacroix nous disait, là, ils sont-tu rendus à 15, 14, 15, 16? Là.
À peu près, oui.
Ça commence à faire pas mal de monde. Je la salue. Je pense qu'elle a donné en politique et elle est encore jeune, 60 ans aujourd'hui ou 58 ans. C'est encore très, très jeune et elle peut faire 56 affaires dans la vie. Le sky is the limit.
Peu importe l'allégeance politique d'une personne, quand quelqu'un donne 17 ans de sa vie à la politique, on ne peut que lui dire bravo et merci d'avoir fait sa part pour la société. C'est pas un métier facile, on le sait et tu le sais très bien.
Elle est restée en selle hein, toutes ces années-là.
C'est pas des bottes de cowboy et battu.
Non, c'est une fille qui s'est assise sur le taureau et puis qui a pas été éjectée, je veux dire, malgré la commission Charbonneau. Tu te souviens pas, toi, à l'époque, Julie Boulay, au début de sa carrière, faisait 2-3 ans, là, en tout cas, elle était là, peut-être 4-5, et il y avait eu une histoire de dosette, te souviens-tu de ça?
Ah, les dosettes pour les pharmaciens, là?
Oui. On dit qu'elle avait eu un cadeau, alors que c'était niaiseux, absolument niaiseux. Les dosettes, c'était des petites enveloppes de cellophane pour mettre des pilules.
Oui, mais qui ne payait pas.
Ben oui, mais
c'est... Le pharmacien aurait dû payer, mais il recevait gratuitement.
Oui.
Et dans une année, ça fait quand même un bon montant d'argent.
Oui, pas tant que ça.
Bon, pour un pharmacien.
Non, mais tu sais, c'est pas comme, je sais pas, là, un cadeau pour aller quelque part sur un bateau de croisière, faire le tour des îles à Hawaï ou à Dubaï.
Devenir le chirurgien privé d'un compte en Arabie Saoudite puis placer son argent dans un abri fiscal.
Non. Hein? Ça arrive pas, c'est de la politique fiction.
Ah, ben non, il est premier ministre.
Je t'ai vu venir. OK, point à la ligne. On va arrêter de parler de politique parce que là, tu te peux plus, là, t'es en train de te transformer en humoriste.
Ah, c'est une commère.
Une épicerie de Montréal est la première en Amérique du Nord à avoir subi une attaque au plastique. Ça s'est passé dimanche. Et est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Et puis après ça, on commentera.
Ben, écoute, c'est des gens qui faisaient une démonstration, c'est après, ça s'est passé au Royaume-Uni, il y en a eu en Belgique et tout, ce qu'on appelle le mouvement Plastic Attack. C'est parce que dans les épiceries, tu l'as remarqué fort probablement et tout le monde l'a remarqué, il y a des produits qui sont vraiment emballés, sur-emballés, doublement emballés, tu sais, des courgettes emballées 2, 3, 4 fois avec du cellophane et tout. Et c'est un organisme, une gang qui se met aux entrées des épiceries pour montrer justement aux gens de quelle façon on peut sauver sur l'emballage et diminuer un petit peu l'empreinte écologique de nos épiceries. Donc, ils se sont placés à la sortie d'une épicerie à Montréal, je crois que c'est dans le quartier Rosemont, mais je ne suis pas certain. Et il faisait une démonstration aux gens. Avec des plats recyclables, des plats, ce qu'on appelle des fameux plats Tupperware, de placer tes aliments à l'intérieur du plat Tupperware plutôt que ce soit emballé et suremballé. C'est un mouvement qui prend de l'ampleur et c'est un mouvement, je te dis, qui n'aurait pas lieu d'être.
Beau.
Parce que tout simplement, il me semble que ça devrait être juste logique que les épiceries n'emballent pas les courgettes deux par deux, de les prendre tranquillement et tout ça. Tu achètes deux limes, mettons, à l'épicerie, tu les mets dans des sacs de plastique pour les faire peser. C'est de la surconsommation, surtout que le plastique, c'est très peu biodégradable. Et ça s'en va vers une catastrophe écologique quand même assez majeure.
C'est vrai.
Ça va de soi d'arrêter de suremballer les...
Écoute, les champions là, du suremballage, tu vas chez Costco, OK?
Ah, c'est épouvantable.
Costco, là, t'as la grosse boîte, OK? Dans la grosse boîte, il y a les petites boîtes. Exemple, tu achètes des biscuits, là. Là, tu as 8 sortes de biscuits différents. Donc, tu as 8 autres boîtes. Là, tu sors l'une de ces boîtes-là de la grosse boîte et là, tu l'ouvres. À l'intérieur, tu tires, il y a un réceptacle pour mettre les biscuits, mais ça, c'est emballé avec une pellicule plastique. Puis là, tu finis par atteindre tes biscuits. Il me semble qu'il y a une couche ou deux de trop.
Bien, c'est justement, je comprends pas... Pourquoi la société est allée dans cette direction-là, alors que c'est très simple, tu vois. Nous, on utilise à la maison, on fait quand même très attention, de simples petits sacs de filets, en filets extrêmement minces, des sacs qui sont réutilisables, dans lesquels on met nos fruits, dans lesquels on met nos fruits et légumes, et en arrivant ici, on les transporte, ce qui évite justement le plastique. On achète souvent les choses en vrac, puis j'entends les gens dire... Ouais, mais c'est le fun quand c'est emballé parce que les gens les taponnent pas. Non, les gens, ils vont les taponner pareil pour les emballer de toute façon. C'est rendu qu'aux États-Unis, j'imagine que tu as vu cette image-là passer.
Ouais.
On épluche les oranges pour les emballer ensuite dans un contenant de plastique.
Incroyable, incroyable. Ça aussi, c'est incroyable.
On s'en va là. Et c'est vraiment une marque sur la terre. On voit justement les mers, les rivières, la pollution dans certains océans, le Pacifique et l'océan Indien, c'est épouvantable. Et c'est plein, les petites bouteilles d'eau, juste les petites bouteilles d'eau qu'on utilise. L'année passée, en 2012, dans un an au Québec, il s'est pris 43 000 tonnes de petites bouteilles de plastique, d'eau, puis de Gatorade et tout, qui n'ont pas été recyclées. C'est beaucoup, ça, Robert. C'est juste au Québec... On est juste 8 millions, c'est vraiment très peu. Les sacs de plastique à l'épicerie avant qu'ils échangent, qui étaient très peu, qui n'étaient pas recyclables du tout, ils étaient faits d'une matière, j'ai oublié le nom, là. C'est 86 tonnes de sachets puis de sacs de plastique qui ne sont pas nécessairement biodégradables, qui ne sont pas dégradables, qu'on utilise seulement au Québec. Ouais. On se dirige vraiment on est en train d'étouffer la planète, on est en train d'étouffer la Terre, on surutilise nos ressources. Ben, on va finir par le payer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai l'air gauchiste et j'ai l'air alarmiste.
Mais quand tu as vu là, les océans de déchets là, qui flottent à la dérive, là, de plastique, entre autres, que les animaux vont ingérer, tu as bien raison de dire ça. Il ne faut pas être écologiste à l'extrême, là, mais on peut quand même être clairvoyant, puis être lucide, puis voir ce qui se passe précisément.
C'est par des petits gestes. C'est juste par des petits gestes.
Oui.
Je dis à personne là, d'abandonner la voiture et de commencer à faire pousser ses carottes et ses panais dans son jardin. C'est pas ça que je dis. C'est juste chacun doit faire un petit geste, des petits efforts. Mais bien entendu, quand tu regardes ça, 90% des pollutions qui sont causées par le plastique à travers la planète, c'est fait par des grosses industries et des usines. Mais si nous, on commence à demander à notre marchand local de diminuer son empreinte écologique, probablement que la chaîne risque de se rendre jusqu'en haut. Et là, on aura fait notre part. C'est tout.
Il y a un auditeur qui veut nous dire un mot là-dessus. Es-tu ouvert?
Oui, moi, je suis tout le temps ouvert.
Bonjour, Steve.
Bonjour, ça va bien?
Bien, on vous écoute.
Je me souviens, quand j'étais jeune, on allait à l'épicerie, puis notre épicerie était placée dans des sacs de carton avec les poignées tressées en carton.
Oui, je me souviens de ça.
Et puis quand
aussi.
On allait à la boucherie, la viande était enveloppée dans un papier comme rosé, ciré.
Oui, oui, oui.
Je me demande pourquoi que ça revient pas.
Parce que ça coûte trop cher. Monsieur, ces affaires-là ont été enlevées. Ça coûtait trop cher aux épiciers.
Ça coûte trop cher pour essayer de sauver notre planète.
Ah, ben ça, monsieur, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est juste que la matière pour emballer aux épiceries coûtait trop cher et sont allées directement dans le papier saran. Ah,
c'est vrai, puis pour l'efficacité peut-être aussi, là.
L'efficacité, ben non. Je veux dire, c'est pas plus efficace de faire trancher son steak puis de le mettre d'un truc en cellophane, en styromousse avec du plastique dessus que de l'emballer dans le fameux papier ciré rose que monsieur parle. Je veux dire, il n'y a pas de délai. Là. C'est vraiment une question d'économie.
Ouais. Hey, merci, Steve, d'avoir téléphoné.
Merci, bonne journée.
Puis l'autre affaire aussi, c'est au plan marketing. Tu sais, vendre du steak haché, là, qui est déjà emballé dans un papier qui est pas transparent, ça fonctionne pas. Il faut voir le produit que l'on achète. C'est pour ça qu'on le suremballe avec le petit réceptacle en styromousse.
Oui, je sais. Mais non, je sais. J'ai pas vraiment de réponse pour ça.
C'est parce qu'on veut le voir, tu sais. On aurait beau emballer l'épaule de porc ou l'épaule d'agneau dans un papier mais on veut voir la viande. C'est pour ça qu'on l'emballe de cette façon-là. Hey, j'ai un petit cadeau pour toi.
Hein, oui.
C'est ton époque en plus. Tu as dû sûrement danser un slow sur la musique de Chicago.
Chicago, oui.
Oui,
ben oui.
Bon, et Chicago, à l'amphithéâtre Cogeco cet été, ils vont faire deux villes seulement au Québec, dont Trois-Rivières.
OK.
OK, et je veux t'offrir cette chanson-là, simplement pour te dire que le temps file et qu'il y a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, on dansait là-dessus, toi.
Oui, mais je pense que j'étais pas né, Robert. J'étais trop jeune.
Arrête, 30 ans. Arrête-toi. Salut. À la semaine prochaine.
Bye.
Chicago pour aller à la pause.